Bonjour à tous, toute l'équipe de Parks Radio en direct du lycée avec moi-même Big Max,
Bab,
Mel,
Nico,
Mendez,
Forest Fort,
Emric,
Sarah
et la Comère.
On vous présente Parks Radio, l'émission à l'adresse des jeunes.
Au programme de cette séance, nous commencerons par rendre hommage à Rosa Parks, puis nous vous proposerons des interviews d'artistes locaux et des bons plans musique et sorties pour tous.
Parks Radio.
À l'écoute, les lycéens du lycée Rosa Parks.
Parks Radio, l'émission à l'esprit jeune.
Parks Radio.
Rosa Parks, mais au fait, qui était Rosa Parks? Dans le cadre du 100e anniversaire de la défunte qui a inspiré le nom de notre établissement, je suis descendue dans la rue afin d'y réaliser un micro-trottoir.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous savez qui est Rosa Parks?
C'était une Américaine qui a pas voulu justement laisser sa place dans un bus à un blanc. Et donc ça a créé une sorte de révolte. Elle a participé contre l'esclavage des Noirs.
Non. Je suis désolée, mais vous n'avez pas une petite idée?
J'en ai déjà entendu parler, c'est peut-être une personne célèbre. C'est une personne qui n'a pas voulu laisser sa place dans un bus. Parce que peut-être qu'elle n'aimait pas les blancs.
Rosa Parks, c'est une personne qui est l'emblème d'une voiture, Rosa Parks.
Non. Rosa Parks, c'est une personne, une actrice des années 80, non?
Bah oui, c'est une noire noire américaine qui a pas cédé sa place à un blanc dans un bus. Et du coup, à partir de là, elle a défendu la cause des noirs, justement. D'ailleurs, elle porte le lycée de Neville porte son nom pour qu'on se rappelle de son combat.
C'est une marque de lessive Non, je sais pas.
Oui, c'est une noire américaine qui a pas voulu laisser sa place à un blanc. Et en effet, elle s'est battue pour la cause des noirs aux côtés de Martin Luther King.
Est-ce que vous savez qui est Rosa Parks?
C'est une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle a refusé de céder sa place à un passager blanc dans un autobus. Et elle a été arrêtée par la police et depuis, elle fait figure d'emblème.
Parks Radio.
À l'écoute, les lycéens du lycée Rosa Parks.
Parks Radio, l'émission à l'esprit jeune.
Parks Radio.
Avec Mel, on est allé interviewer Lucien Chiche, auteur du livre Je suis Rosa Parks aux éditions Jacques André Éditeur.
Elle est née en 1913. On célèbre actuellement le 100e anniversaire de sa naissance. Hein. On peut dire qu'une deuxième date pour elle, ça va être le moment où, à force de se battre dans la vie, il avait fallu qu'elle interrompe ses études pour s'occuper de sa mère et de sa grand-mère qui étaient malades. Mais enfin, le moment où elle obtient le diplôme d'études secondaires. Il y avait quelque chose comme moins de 10% de Noirs qui accédaient à ce niveau d'études. Elle avait 20 ans à ce moment-là. Ensuite, elle a la rencontre avec celui qui lui donnera son nom, Raymond Parks, qui était un militant de la NAACP, c'est-à-dire l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur. En 1943, la première fois où elle a une algarade dans un bus avec un chauffeur de bus qui veut l'obliger à occuper les sièges pour noirs, elle se bagarre avec lui, elle est expulsée du bus. Et 1955, elle a adhéré à la NAACP et elle se trouve dans un bus là. Une place, elle l'occupe. Le chauffeur de bus voit monter un blanc ou une blanche, je ne sais pas. Il demande qu'on libère le siège, elle refuse. 1955, ça va être le début de cette épopée, hein, disons, ce boycott.
Et pour compléter cette rapide présentation de Rosa Parks, quelques éléments à retenir sur Rosa Parks par Lucien Chiche.
Ben, c'est la destinée d'une personne tout à fait ordinaire, et même faisant partie de cette partie de la société la moins favorisée, hein, les descendants d'esclaves aux États-Unis, et qui, par l'enchaînement des événements, de par le geste héroïque qui a été le sien, qui a été de refuser de se soumettre à une législation inique, est devenu donc... une personnalité considérable parce que elle a enclenché un mouvement qui a été énorme et qui a abouti à la loi sur les droits civils, civiques, qui a été instituée donc par le président Johnson. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait des tentatives de le faire, hein. C'était une personne, comme elle l'a dit dans un des livres qu'elle a signé, Quiet Strength, qui avait une force tranquille et qui a su faire face aux défis, hein. Il faut dire que les gens qui osaient s'opposer à ces lois, bien souvent, ont été assassinés. Et elle a tenu bon. Pourquoi ? Parce qu'elle était excédée, comme elle le dit, fatiguée de subir cette loi inique. Ça a enclenché un mouvement. C'est le début de la phase finale de ce combat pour les droits civiques.
C'était donc Lucien Chiche, auteur du livre « Je suis Rosa Parks » aux éditions Jacques André Éditeur. On va faire une première pause musicale avec l'artiste Daddy's Boy en featuring avec Matt Vince et son titre Visage Pâle, vous pouvez les suivre sur Facebook. DP on the
track. Matt Vince. Daddy's Boy. Tu veux savoir ce qu'on fait? Chérie, j'ai pris de l'envergure, leur connerie n'est plus de taille. Je fais une soudure sur mes fractures pour ne pas dire bye bye. Tu peux pas te faire la malle sans bruit, de toute façon la porte mince. Mais si tu te retrouves dans le sale bras, ne t'en fais pas, ça se rince. C'est un mirage, j'ai confondu la glace et mes posters. Un visage pâle avec une plume et rien d'un imposteur. Je fais de la musique, tu veux une image simple, belle. La recette est la même que celle du métissage. À la base, c'était sans place, quelques bonnes phases à l'occasion. Mais page à page, j'utilise mon cahier en guise de masque à gaz. Hier, j'ai fait le même rêve, ma gueule en pixels sur plasma. Je rappais avec la joie d'un gosse qui flotte sans bras. Ça, en fait, en ce moment, dans ma tête, y a une tempête forte qui je fais des sacrifices pour que ça pète, pour cracher des feux d'artifice. Pas un tour de passe-passe, non. Les gars, sache que c'est que le coup de frein avant que les pneus ne crissent. En cabine, comme derrière un pare-brise ou comme dans un photomaton. Après le flash, des corps gisent sur le béton, brise le quelconque est la vitre de la montre. Pas de risque, quiconque rafle la mise, faut la rime mastodonte. Je fais plus cauchemar au je suis MC, tout le monde. Mais bon, de façon, pour que le doute tombe, il faut que la foule ronde. Non, l'action ne se compte, pas en une fraction. Seconde, pour un bond de la banalité à la notoriété de la Joconde. Je vais pas me rincer la cabessa, je veux des palmiers avec ça. Voir plus qu'à me baisser pour une pincée de sable des USA.
Arrête tes conneries,
trêve de rêverie, atterris. Le voyage en musique, ça n'a pas de prix. Y'a rien qui cloche, mais merde, pourtant t'as entendu l'écho. Approche, hoche la caboche et pète-toi les nerfs cervicaux. Je vais être playlisté. Rappelez-vous de mon créneau et tu sais, malgré tout, t'es toujours dans un coin de mon cerveau. Chérie, j'ai pris de l'envergure, leur connerie n'est plus de taille. Je fais une soudure sur mes fractures pour ne pas dire bye bye. Tu peux pas te faire la malle sans bruit, de toute façon la porte grince. Mais si tu te retrouves dans le sale bras, ne t'en fais pas, ça se rince. C'est un mirage, j'ai confondu la glace et mes posters. Un visage pâle avec une plume et rien d'un imposteur. Je fais de la musique, tu veux une image simple, belle. La recette est la même que celle du métissage.
On est blanc comme neige, les idées noires comme nuit. Devant un grand cortège, des billes des faces cosmiques. Encore je rêve d'éviter l'anonyme. Mâcherai mon patronyme car je veux qu'il t'ensorcelle. Je suis fou d'entrer quand ça jacque, j'ai pas compris ces gens. Je vais pas arrondir les angles juste pour entrer dans la case. Ma complice est blanche mais je vais la tapisser d'encre. Si tu fais crisser des dents, moi je viens te les planter dans la face.
Comment ça se passe?
J'ai pas l'habitude de tailler. Vas-y, je suis ton attitude, je veux voir si tu peux flyer. Ça t'étonne grave de me voir rétrograder. Je suis pas du bouteng mais j'ai la méthode man, yeah. C'est comme ça, on déconne pas. On fait notre taf, puis on visera le Graal. On décollera, car on aime trop ça. malgré nos âges et nos visages pâles. Mis à part ça, je rêve d'un endroit où les gens sont vrais, sans complexe, où rien au monde ne nous encombrait. Je me sens con, ouais, quand je vois que je rappe sans résultat. Des thunes, gars, j'en ai pas besoin, je veux juste un exutoire. Expulse-la, toute cette haine qui te bloque. Tu coupes tes veines pour cette peine qui se stocke. Tu veux te poudrer le zen, te fourre cette merde qui te poque. D'où qu'elle vienne, tu t'en fous, mec, tu mènes une vie de loc. Chérie, j'ai pris de l'envergure, leur connerie n'est plus de taille. Je fais une soudure sur mes fractures pour ne pas dire bye bye. Tu peux pas te faire la malle sans bruit, de toute façon la porte grince. Mais si tu te retrouves dans le sale bras, ne t'en fais pas, ça se rince. C'est un mirage, j'ai confondu la glace et les posters. Un visage pâle avec une plume et rien d'un imposteur. Je fais de la musique, tu veux une image simple, belle, la recette est la même que celle du métissage.
À l'écoute, les lycéens du lycée Rosa Parks.
Parks Radio, l'émission à l'esprit jeune.
Parks Radio.
Événement. Cette année se déroule la 9e édition du Festival des Mondes d'Or, les 28, 29 et 30 juin. Au programme, des artistes électro, rap et reggae vous accueilleront à Polémieux pour un week-end plutôt festif. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer l'un de ses créateurs pour plus de précisions sur le festival. Avec nous, Nicolas Tieslin.
Eh bien, le Démon d'Or, il a été créé en 2005. Donc, il a été créé, en fait, par deux associations de jeunes, de Curis au Mont d'Or et puis de Polémieux au Mont d'Or, qui sont deux communes, deux toutes petites communes, voire même Curis, c'est la plus petite commune du Grand Lyon. Donc, il y a à peine 1000 habitants. Et pourtant, voilà, est né un festival, donc, depuis 2005. Et ça s'était déroulé, à cette époque, c'était le 3 et 4 juin 2005. Donc, on était en début juin. Et ben ça a déjà changé. Et à l'époque, il y avait un peu plus d'une quinzaine de groupes sur deux scènes déjà, à Saint-Germain au Mont-d'Or.
Est-ce que tu peux me dire quel rôle tu as joué dans la création du festival?
Ben c'est une simple, en fait, moi j'étais le président de l'association des jeunes de Curis au Mont-d'Or. On avait déjà fait un concert en fait sur Curis. Paul Emieux faisait déjà des concerts. Et puis moi j'ai juste mis en relation les jeunes des deux communes. Et puis j'avais la chance d'être au conseil municipal en fait à Curis au Mont d'Or. Donc du coup ça m'a permis de connaître un peu les élus des différentes communes et notamment de Saint-Germain au Mont d'Or et le maire qui s'appelle Guy David qui est encore l'actuel maire et puis qui a répondu favorablement en fait aux demandes de la jeunesse du secteur et qui a dit bah oui ok je fonce je vous propose le stade et puis à partir de là a commencé l'aventure du festival. Voilà en gros.
Et est-ce que tu peux me dire quelles ont été les premières difficultés pour monter le festival?
Alors, si tu me parles de premières difficultés, il y en a eu plein, mais les premières c'était déjà les autorisations. C'est pas tant d'avoir des groupes, c'est pas tant de trouver le matériel son, voilà, parce que après ça c'est les prestataires, donc tout ça ça se paye, hein, c'est assez simple. Mais c'est surtout les autorisations, donc que ça soit les municipalités qui donnent leur accord. Alors bon, nous on avait la chance effectivement d'avoir le maire encore une fois de Saint-Germain, qui nous a suivis, donc ça a facilité un peu les choses. Au niveau de la gendarmerie, au niveau de la préfecture, au niveau des autorisations de débit de boissons, puisqu'à l'époque ça se faisait encore comme ça, il fallait encore faire des demandes qui étaient visées par la préfecture, enfin bref, voilà, il y avait pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme difficulté? Si, la maîtrise du site, parce que en fait on savait pas trop ce qu'on allait faire, en fait on était motivés mais on savait pas précisément ce que ça allait donner. Donc même des contraintes techniques aussi au niveau de l'emplacement, je dis n'importe quoi, mais même des entrées, des choses comme ça, où on s'est retrouvé le premier jour à faire payer les gens à la lampe frontale, enfin voilà, des petites choses où avec le recul on se dit que voilà, c'était les balbutiements. Faut pas oublier qu'aussi on a commencé, moi j'ai commencé ça, je devais avoir 20 ans ou 21 ans, Et j'étais le plus vieux dans l'histoire. Du coup, ça veut dire que tous les autres bénévoles, ils avaient 17, 18, 19, mais pas plus. Donc c'était quand même un groupe qui était super jeune. Donc ça, c'était aussi une vraie contrainte, parce que se faire entendre, j'ai envie de te dire que c'est même la principale contrainte, parce qu'il fallait se faire entendre des élus, et puis qu'on ait une crédibilité. Et en fait, voilà, ça s'acquiert avec le temps. Donc 2005, rappelle-moi, on est en 2013.
Ouais, exactement.
Forcément, il y a une évolution, puisque comme je te disais, on a commencé, tu penses, on avait 19-20 ans. C'était ultra bénévole, c'était uniquement associatif. Puis au fur et à mesure que tu organises les choses, tu souhaites quoi ? Tu souhaites professionnaliser les choses. Parce qu'il n'y a pas le choix non plus, c'est-à-dire que au début tout le monde est étudiant, tout le monde est vachement disponible, et puis au fur et à mesure du temps le festival grossit, on a envie d'accueillir les gens un petit peu mieux, on a envie d'offrir des choses encore meilleures, que ça soit en termes de prestations, que ça soit en termes de programmation, donc effectivement ça nécessite que les gens se professionnalisent et donc salarier une personne au début sur une période courte via des contrats professionnels, des contrats qui favorisent un petit peu la professionnalisation au niveau associatif. Donc ça a été le cas notamment avec Gaël Michel, qui est la personne avec qui j'ai bossé et qui est actuellement le directeur du festival et qui est aussi sur une autre association qui s'appelle Total Res. Donc voilà, c'est une personne qui a été aussi ultra active. Ça me fait penser qu'on a passé je sais pas combien de centaines de journées ensemble, enfermés dans une pièce avec un ordinateur à préparer les dossiers de subventions, voilà, qui aboutissaient pas forcément puisque c'était les débuts. Voilà, l'évolution, c'est la professionnalisation. Il n'y a pas de secret, même si l'identité quand même du Démondeur, c'est un groupe de bénévoles, c'est des gens sur un territoire bien défini. Maintenant, il y a une ouverture sur les Lyonnais, c'est-à-dire que on souhaite aussi qu'il y ait d'autres gens que du Démondeur, mais c'est un projet Démondeur et du Val-de-Saône. Et puis maintenant, qui s'étend un petit peu plus largement.
Quel rôle joues-tu aujourd'hui à propos de ce festival ?
Je pourrais plus te dire, là ça fait 4 ans maintenant que j'ai arrêté. Pour une raison simple, c'est que moi j'avais fait un petit peu le tour de l'organisation. Ça prend énormément de temps. Et puis là maintenant moi j'ai 32 ans. Donc quand je te disais que j'en avais 21-22, oui forcément, on a une vie aussi à côté, on a une vie professionnelle, on a une famille aussi, ça se construit, on peut pas toujours être disponible de la même façon. Et puis il y a aussi des fois des personnes qui font que il y a d'autres envies, et il faut savoir passer la main, il faut savoir transmettre. Et c'était le moment, quand on a fait la première édition à Polémieux, j'estimais que les choses étaient installées et qu'il était temps de se retirer, et qu'il y avait des gens derrière pour assumer. Et puis mon bilan était bon, donc du coup le président s'est retiré gentiment. Et puis quand on laisse un projet, quand on souhaite se retirer, il faut pas revenir sur le projet. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. On peut apporter un soutien, on peut échanger, on peut discuter, Mais il faut savoir se retirer pleinement et puis laisser les rênes à ceux qui ont repris. Même si ça m'arrive très régulièrement d'échanger sur ce qui va se passer sur cette année. Et Dieu sait que je sais pas mal de choses, mais pas énormément, parce que je les laisse fonctionner et qu'ils s'en tirent très 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 bien. L'édition de l'an dernier, il y a qu'à voir l'édition de l'an dernier. Je pourrais plus te dire, mais il y a eu 6500 ou 7000. Oui, 7000 festivaliers. C'est autre chose. Ils ont fait quelque chose d'une belle machine. Et qui reste à taille humaine. Il n'y en a pas beaucoup des festivals où on a l'impression d'être à la campagne, de se reposer, puis en même temps de faire un petit peu la fête aussi, de profiter.
À l'écoute, les lycéens du lycée Rosa Parks.
Parks Radio, l'émission à l'esprit jeune.
Parks Radio.
Rendez-vous donc les 28, 29 et 30 juin au Festival des Monts d'Or et le 2 avril pour l'annonce de la programmation artistique. Et tout de suite, une respiration musicale avec Max Romeo, un artiste qui s'est représenté au Démon d'Or l'année dernière, avec Chase the Devil.
Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
Galade, 100.9.
I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
À l'écoute, les lycéens du lycée Rosa Parks.
Parks Radio, l'émission à l'esprit jeune.
Parks Radio.
Les Monts d'Or et ses jeunes. À ce propos, Big Max et moi-même avons surfé sur le net pour avoir une idée sur les intérêts des jeunes pour l'information. Comment s'informent-ils? Quels outils sont privilégiés? Quelles informations recherchent-ils? Autant de questions auxquelles ils tentent de répondre. Je laisse la parole à Big Max pour introduire.
En effet, on aurait tendance à penser que les jeunes sont peu concernés par l'information. Mécontents de cette analyse hâtive, nous nous sommes donc interrogés sur le rapport qu'entretiennent les jeunes avec les différents médias. À l'aide d'un sondage mené par l'étudiant.fr en partenariat avec les Assises internationales du journalisme, nous tâcherons de clarifier la situation. Tout d'abord, les jeunes, dans 55% des cas, considèrent l'information comme un élément important de leur vie de tous les jours. En effet, les deux tiers d'entre eux affirment même y consacrer plus de 15 minutes quotidiennement. Cependant, leurs pratiques diffèrent selon leur niveau d'études et donc selon leur âge. Les lycéens sont plus attachés à la télévision. Cette préférence s'exprime dans 44% des cas, ce qui confirme la position du petit écran en tant que média familial. Les étudiants du supérieur, plus indépendants, privilégient Internet dans 45% des cas. Le web leur offre une expérience plus libre dans leur quête du savoir. Pour ce qui concerne la presse écrite, le bilan est plutôt lourd. En effet, le taux de préférence ne dépasse pas les 15%. Cependant, les jeunes semblent accorder un répit exclusif au quotidien gratuit. Un exemple représentatif d'un mode de vie étudiant où chaque denier est compté et où les transports en commun proposent du temps approprié à l'information. La radio, quant à elle, semble bornée à l'utilisation matinale au réveil. En effet, les jeunes émettent des difficultés à suivre des émissions à thème programmé. Dès lors, Mélanie s'est interrogée sur le type d'information ciblée par notre génération.
En effet, les jeunes suivent l'info, mais quel type d'info ? Pour commencer, les jeunes désirent à 70% s'informer pour mieux comprendre le monde, loin, très loin, devant le souhait de s'informer pour réussir ses études qui ne représentent que 20%. Mais ici, il y a encore une fois des nuances selon l'âge, comme Big Max nous l'a expliqué précédemment. En effet, les étudiants ont plus d'intérêt pour les sujets de société, les informations internationales, la politique ou encore la culture, tout ceci dans un but personnel, contrairement aux lycéens qui préfèrent des informations pratiques d'économie pour un usage plus scolaire que personnel. En effet, il semblerait que les recherches d'informations chez les lycéens soient liées au cadre de l'école, comme les exposés ou encore pour faire un lien entre des notions et l'actualité. De plus, on peut aussi constater certaines différences garçons-filles à la limite de la caricature. En effet, les filles interrogées disent s'intéresser à 70% au sujet d'actualité, à 62% au sujet de culture et de loisirs. Pardon. Pour les garçons interrogés, sans surprise, 64% s'intéressent à la politique et 52% au sport. Je laisse la place à Big Max pour nous parler des nouveaux supports d'information.
Exactement. Dès lors, nous pouvons nous demander quels sont les différents supports que nous privilégions suite à l'apparition depuis ces dernières années de nombreux supports numériques tels que les smartphones ou encore les tablettes. Ceux-ci nous permettent de nous informer plus rapidement et différemment. L'attachement des jeunes lecteurs ou internautes pour tel ou tel support n'est pas vraiment essentiel car les lycéens veulent une information et ne prêtent pas attention à ceux qui leur donnent l'information. En effet, depuis la démocratisation d'Internet, le rapport des jeunes au support a été totalement modifié. Les jeunes ont tendance à désacraliser les supports. C'est le parfait exemple du monde qui n'est plus la référence en matière d'information. Les jeunes passent plus facilement d'un titre à l'autre et avec Internet, ils iront plus directement à l'information ou au complément d'information, sans réellement se poser la question du support. Dès lors, Mélanie pourra nous apporter un regard plus critique sur les jeunes et leur rapport à l'information.
Tout à fait, Big Max. Des jeunes sont plutôt critiques sur les médias. En effet, nous pouvons voir qu'il existe un certain paradoxe chez les jeunes. Les médias le plus utilisés n'est pas forcément celui dans lequel ils ont le plus de confiance, la presse écrite dont les jeunes ne sont pas forcément des lecteurs réguliers, et pourtant le support dans lequel les jeunes ont le plus confiance, l'indice de confiance étant à 75%, contrairement à Internet et à la télévision, qui ne recueillent qu'un indice de confiance de 12, alors que ces derniers sont les médias privilégiés des jeunes. Mais là aussi, l'âge joue un rôle décisif. La presse écrite reste plébiscitée chez les lycéens, même s'ils ne sont pas des lecteurs réguliers. Mais avec l'âge, la confiance qu'ils portent aux journaux diminue au profit de la radio, qui semble, quant à elle, retrouver des auditeurs au-delà des 20 ans. D'où vient cette méfiance ? Il n'y a pas vraiment de fondement là-dessus. Pourtant, la manière dont nous sommes traités, entre guillemets, dans les médias, ne correspond pas à la réalité. Nous sommes 55% à penser que les médias parlent de nous de façon caricaturale. En effet, l'exploitation du site Wikipédia, le site numéro 1 pour les réalisations d'exposés, est fortement controversée pour ses contenus, parfois douteux. Conforte l'idée que nous ne sommes pas toujours capables de juger la qualité de l'information que nous traitons. Cependant, selon Evelyne Bévor du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, l'implication des jeunes dans leur information ne dépend pas de leur intérêt pour le sujet. Plus celui-ci est fort, plus nous serons amenés à diversifier nos ressources. Elle ajoute que la faculté de s'informer efficacement est le fruit d'une expérience qui se crée avec le temps et au contact de l'information. Pour conclure, je laisse la parole à Big Max.
Tout à fait. Et en conclusion, nous avons vu que la jeunesse est loin de négliger l'information, et tout particulièrement l'actualité, qui constitue son principal centre d'intérêt. En effet, il semble clair que nous sommes sujets à une image caricaturale, nous limitant à l'utilisation d'Internet pour une information que nous ne contrôlerions pas. Cependant, nous, lycéens du lycée Rosa Parks, sommes la preuve vivante que les jeunes ne négligent pas l'information et que, comme nous, ils sont nombreux à la produire eux-mêmes. Dès lors, nous pensions faire un petit tour de table sur les habitudes des jeunes du plateau.
En effet, nous allons laisser la place à Nico.
Alors pour ma part, hormis la radio que j'écoute régulièrement, j'ai accès aux informations grâce aux réseaux sociaux, puisque je suis abonné à des pages Facebook telles que iTélé ou Canal+. Et donc, de ce fait, lorsque je suis sur Facebook, et bien que ce ne soit pas dans le but de m'informer, j'ai tout de même accès aux dernières informations.
Pour continuer sur ce sondage, nous allons laisser la place à Mendez.
Personnellement, comme Nico, j'ai tendance à écouter un peu la radio, mais moi, c'est plutôt le matin et ce serait plus France Inter.
Mais autrement, s'il s'agit de s'informer dans un but d'en apprendre plus pour le lycée par exemple, tout de suite je me tournerai plus vers Internet à ce moment-là, et particulièrement le site Wikipédia qui vient d'être cité. Et sinon, s'il s'agit de me cultiver ou autre, j'aurai plus la tendance à me tourner vers les JT proposés à la télévision.
Et pour finir, Sarah.
Personnellement, je porte une préférence à la presse écrite, papier et Internet, dans laquelle je trouve que l'on peut plus prendre de recul et faire plus preuve de discernement face à l'information qui y est traitée, que par exemple dans les médias télévisés, qui à mon sens nous exposent une suite d'images et de mots chocs, nous tenant plus attentifs mais pas plus informés sur l'information traitée.
À l'écoute, les lycéens du lycée Rosa Parks.
Parks Radio, l'émission à l'esprit jeune.
Parks Radio.
Mendez, Nuko et moi-même, nous sommes intéressés aux jeunes talents du lycée et à leurs initiatives sportives. Tout d'abord, le portrait de Théo Bansillon, jeune artiste cinéaste. Il est interviewé par Nuko.
Alors effectivement, je suis donc parti à la rencontre de Théo et lui ai dans un premier temps demandé à quel âge il a commencé à exercer sa passion et quels sont les acteurs ou réalisateurs qui l'ont inspiré.
On va dire que j'ai commencé à peu près à l'âge de 12 ans. Tu vois, quand on a 12 ans, on est un peu inspiré par des films de science-fiction du type Star Wars, Spielberg, Lucas, etc. Donc c'est vraiment ce qui m'a inspiré et au premier abord, c'était surtout de faire des effets spéciaux, etc. Puis petit à petit, on mûrit et puis on commence vraiment à prendre goût à l'écriture et à vouloir, on va dire, faire des films un peu plus chiants, si je peux dire. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai débuté. Alors le vrai début de la construction d'un film, ça se passe d'abord dans la tête, forcément, puisque ça commence évidemment par l'écriture du scénario. Donc c'est une étape qui prend énormément de temps. Moi, pour ma part, je travaille sur l'inspiration. Quand j'ai envie d'écrire, j'écris. Quand j'ai pas envie, j'écris pas. Donc ça peut prendre en général beaucoup de temps. Par exemple, j'écris en ce moment un nouveau scénario et c'est vrai que un jour j'ai eu l'inspiration, mais je trouve pas la fin. Donc je laisse mûrir jusqu'au jour où je trouverai la suite. Et voilà. Ensuite, il faut trouver les comédiens. On peut travailler dans des sens divers, mais je préfère d'abord essayer de trouver mes comédiens parce que c'est quand même la colonne vertébrale du film, on va dire. Les comédiens, ensuite les techniciens, c'est là où on va établir justement un budget. Et trouver les techniciens, tout ce qui consiste à le travail de la lumière, le travail du son, le chef opérateur, donc l'ingénieur son, le cadreur. Ce sont des personnes obligatoires donc au bon déroulement d'un tournage. Et donc voilà, puis ensuite vient le tournage qui peut durer divers temps, que ce soit un court-métrage ou un long-métrage, mais dans mon cas c'est un court-métrage et je vais travailler en général 3-4 jours, ça dépend. Puis ça dépend toujours du budget, donc voilà, le tournage avec le travail justement sur le tournage, le travail avec les comédiens, la direction d'acteur qui est le travail primordial du réalisateur, et puis ensuite la direction de tous les assistants, les techniciens. Donc en fait c'est vraiment un travail de chef d'entreprise, mais bon, dans une ambiance, on va dire, festive, détendue, même si c'est très fatigant, évidemment.
Est-ce que aujourd'hui tu considères avoir un type de film particulier ou un type de mouvement par rapport aux caméras, ou tu es plutôt...
Alors c'est une question compliquée. C'est sûr que j'ai des réalisateurs qui m'inspirent. Aujourd'hui, je suis un vrai fan de Woody Allen et de ses comédies romantiques, pardon, qui me font vraiment rire, et c'est ce que j'aime dans le cinéma. Maintenant, il y a énormément d'artistes qui m'ont inspiré. Je pense à Jay Schatzberg ou encore Tarantino, ou bien Gus Van Sant, qui est un réalisateur plus moderne que j'aime beaucoup. Mais aussi, il y a des films mythiques comme les Coppola, les Scorsese, qui peuvent que nous inspirer. Après au niveau technique de l'image, etc. J'aime bien les films avec peu de mouvement, mais bon, ça dépendra toujours de l'histoire qu'on veut raconter. Si je veux faire un film violent, j'utiliserai forcément la caméra à l'épaule. Si je veux faire un film très lent, j'utiliserai des plans fixes. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va utiliser beaucoup de travelling, beaucoup de grues, etc. Ouais, j'aime bien la sobriété, donc Donc voilà, mais ça peut très vite changer. Et puis pour les inspirations, c'est exactement la même chose. Ça varie, quoi.
Toi, tu es un réalisateur indépendant, hein, donc tu n'as aucune subvention. C'est toi qui finances tes propres films. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques indications sur les budgets, sur l'argent que tu dois dépenser pour réaliser tes films, et notamment pour tes derniers films qui sont qui commence à devenir une petite production.
C'est vrai que débloquer de l'argent, c'est toujours compliqué, à tous les âges, forcément, surtout dans le milieu du cinéma, puisqu'on a un statut quand même assez particulier et c'est difficile de percer. Mais on arrive toujours à se débrouiller par des moyens divers. Sur mon dernier film, Good Morning Ireland, j'ai utilisé des bénévoles qui m'ont simplement aidé par gentillesse et par amour du métier, en fait. Hein. Parce que ce sont des gens qui travaillent dans le milieu de l'audiovisuel, mais davantage dans le milieu professionnel, le mariage, etc. Parce qu'ils n'ont pas réussi à travailler dans le milieu de la fiction, mais ça reste leur domaine de prédilection, leur domaine de cœur. Donc j'ai réussi à trouver des gens comme ça. Maintenant, je suis quand même suivi par une petite production qui me donne un peu d'argent sur les tournages. Donc là, c'était à hauteur de 300-400 euros, donc pour les lumières. Tout ce qui est la machinerie. Dès qu'on veut faire un film, disons, un peu plus évolué, on est obligé d'avoir un peu de matériel. Et puis, il faut savoir que le matériel audiovisuel, c'est très, 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 très cher. Donc, on fait comme on peut. Et puis, il y a des boîtes sur Lyon indépendantes qui permettent de louer justement du matériel à moindre coût, un poil court, voilà, qui est à PRH, qui est très sympa pour ça, par exemple. Voilà.
Est-ce que tu pourrais nous dire à quel festival tu as participé dernièrement, et notamment en termes de notoriété, quels sont les plus intéressants ?
Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de festivals de courts-métrages en France. Maintenant, gagner des prix, c'est un petit peu plus compliqué car mine de rien, j'ai que 17 ans et que très peu de gens de mon âge font ce type de festival. Maintenant, j'en fais quand même un certain nombre dans l'objectif de me faire connaître et de rencontrer du monde. Alors, j'ai tout de même remporté un prix, un grand prix du jury, un festival à Montpellier et un festival à Aix-en-Provence. C'est des festivals qui étaient exclusivement réservés aux jeunes, donc le niveau n'est pas le même. Maintenant, je me suis aussi rendu dans deux festivals, dont un à trois, qui était un niveau vachement plus élevé. J'ai rien remporté. Par contre, j'ai rencontré du monde, mais aussi des producteurs, des réalisateurs plus âgés, mais très intéressants. Et puis, c'est toujours très intéressant de rencontrer ces gens. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue, même dans la tête, je pense, et en voyant des courts-métrages. Donc oui, voilà, je participe à des courts-métrages et j'essaye justement d'envoyer, de balancer mon film aux quatre coins de la France pour voyager et rencontrer ce monde, parce que c'est comme ça qu'on perce.
Un grand merci à Théo pour cette interview. Vous pouvez vous rendre sur son site www.ttpamprod.com.
À l'écoute, les lycéens du lycée Rosa Parks.
Parks Radio, l'émission à l'esprit jeune.
Parks Radio.
Pour ma part, j'ai choisi de vous faire découvrir le groupe de musique The Sparklights, qui a la faculté d'être exclusivement consisté d'élèves du lycée Rosa Parks.
Alors, nous, on est les Sparklights. Donc, on vient d'une petite commune appelée Genet. On a commencé il y a deux ans que le groupe est formé. Récemment, il y a un guitariste qui est arrivé qui s'appelle Quentin. Et voilà, je vais passer la parole.
Il est vachement sympa. Qu'est-ce que je peux rajouter à mon petit... Enfin, purement personnel, moi, ça fait un an et demi que je joue avec le groupe. C'était Mayol qui m'avait proposé de venir, vu que ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît. Et grosso modo, voilà, ça marche plutôt pas mal. On essaye d'avancer, d'écrire ce qui nous plaît. Et dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Moi.
À ce moment-là, on va commencer par un truc un peu plus précis. Qui fait quoi dans votre groupe ?
Alors moi, je suis la chanteuse. Disons que je crée plus ou moins les paroles et je me mets sur la mélodie. Voilà.
Nayel, tu fais quoi, toi ?
Moi, je suis plutôt batteur et tout ce qui est la partie rythmique des chansons.
Ça paraît logique.
Ouais, t'es batteur.
Vincent.
Moi, je suis bassiste et quand je peux, j'essaye de filer un coup de main pour la compo, aussi bien pour les paroles que pour la musique. en gros.
Il me semble qu'il y a d'autres membres de votre groupe qui n'ont pas pu venir. Vous pouvez me les présenter un petit peu aussi?
Yep, je m'en occupe. Ou juste comme tu veux. Et ben, il y a Quentin, donc comme le disait Mathilde là tout à l'heure, qui joue avec nous depuis 4 mois, truc comme ça, 4-5 mois, qui est super bon. Et Emery, qui est pareil, un des membres fondateurs, et lui qui est là depuis le début. Donc les deux guitaristes en gros.
Quel genre de musique vous faites un peu?
Bah disons pop rock, ouais, bien dans le pop rock.
On est plutôt basé pop rock, on aime bien les Red Hot. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'on a tous des influences assez diverses. Mathilda vient plutôt du blues et du vieux rock, 50s, Chuck Berry et compagnie. Moi je suis plutôt metal, alors que hard rock, alors qu'Emeric et Mayol préfèrent la pop rock et compagnie. Ce qui donne un truc parfois très éclectique et quand même super intéressant pour ce qui est de la compo. Je trouve.
Quand vous jouez, vous faites ça où? Vous avez un local ou alors c'est uniquement en concert quand vous en donnez?
Alors, on a un local qu'on a à disposition tous les samedis après-midi, à peu près, et c'est dans l'école de musique de Genève. Étant donné que je connais la direction, on s'arrange pour avoir les locaux.
Tu as des contacts placés, je vois.
Voilà. Au passage, merci à eux de nous prêter la salle et le matos. C'est quand même vraiment super cool de leur part parce que sans eux, on serait vraiment dans la merde.
Bon, et sinon, au niveau concert, comment vous faites? Vous en faites souvent? La première fois que je vous ai croisé, c'était un concert à Montana, je ne me souviens pas exactement de la date, mais ça avait l'air d'envoyer pas mal. J'ose en déduire que c'était pas votre premier. C'était quand le premier?
Alors, le premier, ça remonte à
pas
mal longtemps.
Fête de la musique Genève.
C'est ça.
Il y a 2 ans, à peu près.
J'étais déjà avec vous,
non? Non, t'étais non, pas encore pas là. Pas. En fait, à la base, c'est un atelier formé par un professeur de Genève, donc avec Emeric et moi, et puis au fur et à mesure on s'est détaché vis-à-vis de ce professeur, et une fois qu'on était complet, on a fait des concerts en étant parfaitement autonome sans avis extérieurs qui nous cadrent.
Et comment ça se passe? Est-ce que vous en donnez régulièrement ou est-ce que ça reste assez rare pour des occasions comme la fête de la musique?
Non, on essaye environ d'en avoir un par mois, ce qui est pas mal. C'est une moyenne, ouais, un par mois c'est une moyenne.
Mais disons qu'il y a vraiment qu'on va appeler, comment dire, des heures de pointe, c'est-à-dire en juin dernier, en un mois, on a dû en faire 5-6, en une semaine, dans la même semaine, on en avait 4, ça nous arrivait de jouer deux fois le même jour, et ça, franchement, ça fait des super bons souvenirs, quoi. C'est génial. Personnellement, moi, la scène, j'adore ça, donc...
Apparemment, vous commencez à jouer pas mal, depuis 2 ans, tout ça, vous dites vous-même que vous commencez à être assez autonome, est-ce que ça veut dire que vous avez déjà des productions personnelles qui sont en préparation ou qui ont déjà été faites?
Bah, nous, notre but complet, à la fin, disons que ça serait faire une maquette, mais bon, une maquette, ça coûte de l'argent, ça demande beaucoup de potentiel, de l'écoute musicale, de travail, donc pour l'instant, on est vraiment dans l'optique... progresser et faire le plus de concerts possible.
Avoir le maximum de matériel à proposer aussi bien au public qu'en studio, quoi. C'est histoire d'avoir le maximum de reprises et d'élargir notre éventail. Bon, c'est con de dire ça comme ça, mais notre répertoire, tout simplement. On essaie d'avoir le plus de compos, puis surtout le plus de compos, des compos le plus variés possible les unes des autres, quoi. Ce qui n'est pas toujours évident.
Vous essayez de vous démarquer, en clair?
Nous démarquer, non, parce que je pense qu'on s'inscrit quand même dans quelque chose d'assez précis en termes de ce qu'on joue, quoi. Le genre musical dans lequel on évolue est quand même assez précis. Ah, arrête ça, ma gueule. Est quand même assez précis, assez concret, j'ai envie de dire. Donc, non, se démarquer, non, pas vraiment.
Bon, je vois que Mayol a envie de parler. Alors, Mayol, c'est à toi que revient la question. Si tu devais finir sur une île déserte et que tu avais droit qu'à 5 chansons, lesquelles ce seraient?
5 chansons de nous ou 5 chansons de...
5 chansons de ce que tu veux.
Pour partager ta culture, d'ailleurs.
Alors, je prendrais une chanson par style que j'aime pour avoir chaque fois des points de vue différents et pour en écrire à partir de ces 5 chansons. Sur une île déserte. Parfaitement. Je prendrais Chuck Berry avec Johnny B. Goode. Je prendrais Led Zeppelin avec une de mes préférées, Hollow Dead Love, voilà. Ensuite, plutôt en pop, tout ça. Classique comme Michael Jackson, mais plutôt un peu aussi, j'aime beaucoup les Maroon 5. En rock, un peu plus hard, pas assez d'essai parce qu'il n'y a pas une rythmique assez fournie. Soit Led Zeppelin, tout ça, mais peut-être Dire Straits aussi. Avec Tunnel of Love ou Sultan Swing. Et. Plutôt plus dur avec du Metallica, des choses comme ça.
Bon, on va juste se quitter là. En dernier lieu, je vais tout simplement vous demander comment on peut prendre contact avec vous, si vous avez une page Facebook ou quelque chose comme ça.
Alors oui, on peut nous trouver sur Facebook, c'est simple, hein, Facebook de Sparklight. Voilà. On a une adresse mail aussi, c'est the-8sparklight@hotmail.fr. Et bientôt, on pourra nous joindre aussi sur Twitter.
Sérieux ?
Voilà.
Bon, ben, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles. Je vous remercie tous les trois, Vincent, Mathilda et Mayol, de m'avoir accordé cette interview. J'espère vous revoir bientôt en concert ou une fois de plus à huis clos pour vous demander des nouvelles.
Merci beaucoup.
Si
ouais.
Est-ce que vous avez des dates ?
Oui. Deux. Alors, nous avons deux concerts le même jour, au choix. Donc le 30 mars, c'est-à-dire à la MJC de Neuville à 16h30. Et pareil, le 30 mars, le soir, à Fleurieu-sur-Saône à 20h30.
Ben, on espère qu'il y aura pas mal de monde pour vous voir. Allez, merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.
C'était donc l'interprétation de NG par The Sparklights. Je vous rappelle qu'ils joueront donc ce samedi à 16h30 à la MJC de Neuville et un deuxième horaire, mais à 19h30 à l'espace Fleurieu de Fleurieu-sur-Saône et pas à 20h30 comme c'était dit dans l'interview. Pardon.
Jingle.
Jingle.
Écoute, les lycéens du lycée Rosa Parks.
Parks Radio, l'émission à l'esprit jeune.
Parks Radio.
Et maintenant, parlons sport avec Nico.
Alors j'en ai fait rencontrer Thomas Rosanciel, qui a décidé d'organiser un tournoi de foot destiné aux élèves du lycée Rosa Parks. Et je lui ai tout d'abord demandé quelles ont été les motivations qui l'ont poussé à organiser le tournoi.
Bah, tout simplement pour apporter un peu d'animation au lycée. Et de plus, il va clôturer un peu l'année. Donc voilà, ça va être sympa. Ça a amené de l'animation.
Donc pour l'animation, justement, est-ce que tu as été facilement suivi par l'administration ? Est-ce que ça a été facile à organiser ou est-ce que tu as connu des difficultés ?
Bah oui, c'était assez simple. Madame Pinet a tout de suite adhéré. Elle a trouvé ce projet plutôt bien. Et ensuite, les profs de sport m'ont tout de suite aidé à trouver une date et à organiser un peu tout ça.
Est-ce que tu as senti un certain engouement au niveau des joueurs, des élèves du lycée ou...
C'était le point un peu difficile du tournoi, c'est vrai, pour trouver des joueurs, car il y a déjà peu de mercredis de libre pour eux. Mais au final, je pense qu'on arrivera à avoir 8 équipes, si tout le monde s'y met un peu. Et... Ça devrait se dérouler fin mai ou début juin. Mais sinon, au niveau de l'organisation, tout ça, je verrai au nombre d'équipes, la durée des matchs, l'heure à laquelle il commencera, tout ça, ouais, ce sera en fonction du nombre d'équipes.
À l'écoute, les lycéens du lycée Rosa Parks.
Parks Radio, l'émission à l'esprit jeune.
Parks Radio.
Après cette minute sport, nous allons enchaîner sur les bons plans et tous les événements sur Lyon ce week-end. Donc dans les bons plans, on va débuter avec la sortie cinéma de la semaine. Il s'agit du film d'action G.I. Joe Conspiration. Après un premier opus qui avait rassemblé plus d'1,8 million de téléspectateurs derrière les écrans de cinéma il y a maintenant 4 ans, un second volet remet d'actualité leur légende et vient nous divertir à nouveau. Dans ce film, les héros vont se retrouver trahis et décimés, le monde est en danger et au bord de la destruction. L'équipe des G.I. Joe font alors appel à celui qui a donné son nom à leur corps d'élite, Joe Colton, un film qui promet d'être riche en action et en scènes de combat dont je vous laisse découvrir la suite en salle. En ce qui concerne les sorties de ce week-end, l'événement à ne pas rater sera bien sûr le Festival des Répercussantes qui débute demain soir au Double Mixte à Lyon et qui s'achèvera ce dimanche 31 mars inclus. Le festival se déroule sur 3 soirs et pour ce qui est de la programmation, vous pourrez retrouver par exemple des artistes comme les Bloody Beetroots, un live exclusif de Netsky ou encore Étienne de Crécy. Et pour ceux qui n'ont pas pu avoir les dernières places pour les Répercus, je vous conseille d'aller découvrir le New Hollywood. Donc c'est une nouvelle discothèque située sur le boulevard des États à Lyon. Le New Hollywood vous propose 600 mètres carrés fait à neuf avec 2 pistes de danse et une grande ultra généraliste le samedi soir et soirée à thème le vendredi soir. La toute première soirée du New Hollywood se déroulera le samedi 31 mars. Et pour finir avec l'actu soirée, je vais vous parler d'une association d'événementiel qui fait du bruit, c'est le cas de le dire. Ça s'appelle Tapage Nocturne. Donc Tapage Nocturne vous propose des soirées mixtes réunissant plusieurs styles de musique électronique, de la deep house à la dubstep, passant par la drum and bass ou encore la nu disco. Sa première qui s'est passée le 27 février au bloc avec Nar a remporté un franc succès. Et pour compléter le lancement de l'association, on pourra retrouver Rêverie Nocturne et Pulsion Nocturne qui sont des déclinaisons de tapage pour des soirées plus conviviales. Une véritable goutte de couleur dans la nuit lyonnaise et qui propose des soirées différentes avec une proximité du public plus présente et un accent plus particulier mis sur la décoration dont je vous laisse découvrir. Et si ça vous intéresse, ils vont bientôt poster l'after movie donc sur leur page Facebook. Et voilà, donc c'est la fin de cette rubrique. Et pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pourrez écouter ce week-end au Répercu, je vous laisse écouter un petit mix fait par Forest Four.
À l'écoute, les lycéens du lycée Rosa Parks.
Parks Radio, l'émission à l'esprit jeune.
Parks Radio.
Notre émission est désormais terminée. Merci de nous avoir écoutés. Parks Radio vous souhaite une bonne journée.
Donc, tous nos remerciements aux équipes du lycée Rosa Parks à Neuville ainsi qu'à Couleur FM et Radio Calade.
Retrouvez-nous sur le www.lycéerosaparks.fr, le www.couleurfm.fr
et www.radio-calade.fr.
We'll be right back.
having a good time.